Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier.
Merci de nous rejoindre dans RTL Midi. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir une nouvelle fois dans le grand carrefour de l'information de la mi-journée. Christelle, bonjour.
Bonjour à tous.
C'est votre émission, vous le savez, 90 minutes pour tout savoir, pour comprendre, pour commenter. Vos appels sur les sujets qui vous intéressent dès maintenant au 3210 3210, le standard est pour vous. Et vos messages attendus sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. L'actualité, Christelle, d'abord un document RTL exceptionnel, le témoignage du pilote de l'Alouette, prise en otage ce week-end par les complices de Redouane Faïd.
Vous entendrez Stéphane Buis raconter comment il a été contraint, avec deux colts sur la tête, à participer malgré lui à l'évasion du détenu, un homme qui faisait effectivement l'objet d'une demande de transfert dans une autre prison. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, l'a confirmé ce matin sur RTL. Parole contre parole, après la mort d'un jeune homme de 22 ans tué par des policiers à Nantes lors d'un contrôle, que s'est-il réellement passé? Nous serons en ligne avec la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, quelques heures après les émeutes qui ont embrasé trois quartiers de la ville. Dans RTL Midi aussi, une formation obligatoire jusqu'à 18 ans pour les décrocheurs. C'est ce que prévoit le plan anti-pauvreté que présentera prochainement le gouvernement. Une troisième mise en examen pour Nordal Lelandais. Il est poursuivi cette fois pour l'agression sexuelle d'une enfant de 6 ans, l'une de ses cousines. Comment se déplacer dans Paris? Un sujet encore électrique. Renault vient de signer un accord pour des voitures en autopartage. Les Bleus à J-2 de France-Uruguay. Une étoile est née, figurez-vous. Adil Rami a pris la parole ce matin en conférence de presse. Et le défenseur a un gros talent de stand-upper. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Le temps tourne à l'orage et prudence en particulier dans le sud-ouest.
Oui, c'est là où on attend les orages les plus violents en cours d'après-midi et soirée. Ça a déjà commencé là d'ailleurs du côté de la Dordogne ou encore sur la côte aquitaine. Ces orages vont se multiplier et attention donc malheureusement au risque de grêle ou encore de fortes rafales de vent, principalement entre les Pyrénées, le Limousin, le Massif central, région Midi-Pyrénées également. Dans toutes les autres régions, là aussi, risque d'orage, ça restera un peu plus isolé. Mais prudence tout de même, il n'y a que tout près de la Manche ou encore sur le littoral méditerranéen que l'on devrait vraiment passer au travers de ce risque orageux. Côté température, ça ne bouge pas. 21 à 25 degrés près de la Manche, 26 à 29 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 29 à 32 encore dans le sud.
Et Louis Baudin vient confirmer tout cela juste avant 13h dans la foulée. Vos rendez-vous, le tout info, la Bourse de Paris, un jour sur la Terre, une histoire et Laurent Gérard pour rire, ce sera à 13h50. La question du jour sur notre site rtl.fr concerne donc ce futur plan anti-pauvreté. Faut-il, comme c'est prévu, mettre en place une obligation de formation jusqu'à 18 ans, histoire de ne pas lâcher nos jeunes dans la nature? Eh bien, vous dites oui à 63% sur notre site. Alors, vos appels dès maintenant au 3210 pour dialoguer et pour débattre. Et un premier sentiment de Cyril, il est principal de collège dans le département du Loiret.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors moi je pense que c'est une très bonne idée, cette idée de formation obligatoire pour pouvoir donner des codes, les codes sociaux, à des gens qui sont assez éloignés des systèmes et qui n'ont pas forcément acquis les postures, le langage, les tenues, les comportements pour pouvoir être en inclusion dans notre société.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Troisième jour donc dans la nature pour Redouane Faïd et nous allons revenir longuement dans RTL Midi sur son évasion. Nicole Belloubet, la garde des a exclu ce matin sur RTL de démissionner, prônant le calme et la fermeté dans cette affaire aussi grave que spectaculaire. Et elle a confirmé qu'une demande de transfert du détenu avait bien été formulée ces dernières semaines, Thomas Proutot.
Absolument, une demande de transfert formulée par la direction de la prison de Réau. Et la garde des Sceaux confirme la réponse de l'administration pénitentiaire. Oui, à un transfert de Redouane Faïd, mais pas avant le mois de septembre. La ministre de la Justice assume, mais attend des explications.
Il va de soi que je suis entièrement responsable de ce qui se passe dans mon administration, mais ce n'est pas moi, à titre personnel, qui prends ces décisions. Nous avons plusieurs centaines de détenus particulièrement signalés. Je suis saisie ou consultée dans des cas un peu exceptionnels. C'était le cas, par exemple, pour Salah Abdeslam, mais évidemment pas dans des situations comme celle-ci. Donc, est-ce que ces réponses étaient pertinentes? C'est ce que la mission d'inspection devra étudier.
La garde des Sceaux souligne que Redouane Faïd avait déjà été transféré 7 fois depuis son incarcération, ce qui est classique selon elle pour un détenu particulièrement surveillé. En revanche, Nicole Belloubet assure qu'aucun projet d'évasion précis n'avait été détecté et que Redouane Faïd était bien à l'isolement sans aucun contact avec les autres détenus. La garde des Sceaux n'écarte pas d'éventuels dysfonctionnements mais s'en remet désormais à l'enquête en cours.
Merci Thomas Proto. Et ce matin, l'homme qui a été contraint de piloter l'hélicoptère, l'Alouette, qui a servi à l'évasion, a eu le courage de témoigner en en exclusivité sur RTL. Un moment fort, un moment rare à la radio. Stéphane Buis a raconté les menaces, les coups et le scénario minute par minute, Jean-Alphonse Richard, de cette prise d'otage.
9h30, dimanche, le petit aérodrome de Logne en Seine-et-Marne. Stéphane Buis accueille deux hommes, l'un la cinquantaine, l'autre la vingtaine. C'est en quelques jours leur deuxième baptême de l'air avec le pilote.
C'était pour moi un père qui voulait faire plaisir à son fils. Quand ils sont arrivés, j'étais seul dans le hangar. Je referme derrière eux, ils arrivent à peu près à l'heure. Et je me dirige vers le R44 Robinson 4 places pour le sortir. Et là, ils me demandent, mais on préférerait faire un vol dans l'Alouette 2. Je dis non, je peux pas prendre cette machine, elle est pas dédiée à cela. En plus, elle n'avait pas assez de carburant. Et là, tout bascule. C'est-à-dire que là, ils m'agressent. Et ils me condamnent à prendre cette machine. Je leur dis oui, mais alors on peut pas décoller avec si peu de carburant. Ben, tu vas faire du carburant et vite. Et maintenant, ils m'ont contraint et prévenu que ma famille est en danger, quoi.
Quelques minutes de vol et l'Alouette se pose dans un champ.
Mais à ce moment-là, ils me font descendre de l'hélicoptère, ils me prennent en joue avec des armes et des coups de crosse et m'expliquent ce qu'on allait faire, et aller chercher un ami à la prison de Réau. Il faut que j'obtempère et que je fasse bien mon travail, sinon ma famille serait certainement
menacée
et que quelqu'un était devant chez moi.
Redécollage et nouvel arrêt dans un terrain vague où la tension, cette fois, va être à son comble.
Là, il me demande de couper la turbine et de mettre la tête sur le manche pour ne pas voir arriver un commando. Toujours avec ce Colt sur la tête. Et là, j'entends effectivement d'autres individus s'approchent et chargent des sacs. Je ne sais pas, je ne vois pas. Après, la machine n'a pas démarré. C'est là que ça a été le cauchemar. Ils ont peut-être dû croire que je simulais une fausse panne. Et là, ça a commencé vraiment à les énerver. J'ai reçu vraiment des coups de crosse de plus en plus forts en me disant « démarre, démarre ». C'est là que j'aperçois des hommes complètement cagoulés en combinaison de genre le Red ou GIGN. Et là, je commence à faire des essais, à réessayer. Ça démarre toujours pas, ça a duré très longtemps. Ils étaient de plus en plus méchants. J'ai pris un coup sur la tête, là. Oui, je suis tombé par terre. Et j'ai touché à un moment donné un relais et enfin la turbine a démarré.
Et cette fois, enfin, direction la prison de Réau.
Ils m'obligeaient à voler très bas pour éviter les radars sans doute. Et arrivé au-dessus de la prison, je ne savais pas où poser. Et je fais quoi maintenant? Et on m'a indiqué de passer au-dessus de l'enceinte.
Vous posez l'hélicoptère dans la cour.
Je pose dans une cour, effectivement, qui était triangulaire. Et ils me font poser pour débarquer l'équipe. 10 minutes de stationnaire sans bouger. Ça m'a paru une éternité de tenir un stationnaire à 3 centimètres près dans cette cour pour pas bouger. Je me repose puisque le commando a terminé son travail. J'entends tout le monde qui monte à bord. Et quand la porte se referme, on me somme de décoller dans l'axe. Évidemment, j'avais fait demi-tour et je redécolle de l'enceinte de la prison.
Stéphane Buis l'ignore, mais l'homme qui est assis à côté de lui est Redouane Faïd.
Je savais pas qui j'avais affaire.
Vous avez pu échanger avec Redouane Faïd?
Très peu, non, il a été vraiment très silencieux.
Est-ce qu'il s'est identifié?
Pas du tout.
L'hélicoptère se pose enfin une dernière fois, non loin du Bourget.
Tout le monde descend, j'avais entendu parler, j'ai l'essence, il faut de l'essence. Et c'est là que j'ai compris qu'ils voulaient mettre le feu à Stalouette. Ils ont tenté de mettre le feu dans la cabine.
La cabine qui sera en partie calcinée, Stéphane Buis aura juste le temps d'apercevoir une voiture noire défoncer une porte grillagée pour s'enfuir avec Redouane Faïd et ses complices.
Merci Jean-Alphonse Richard. Alors ce témoignage à la fois poignant et haletant évidemment face à Jérôme Chapuis, celui de Stéphane Buis, ce pilote d'hélicoptère. Vous allez le réécouter en version très longue sur notre site RTL.fr, c'est dès maintenant que vous allez cliquer.
Dans l'actualité, il y a aussi cette nouvelle mise en examen de Nordal Lelandais, la troisième après l'assassinat du caporal Noyer, le meurtre de la petite Maëlys. Il est poursuivi cette fois pour agression sexuelle sur une petite cousine âgée de 6 ans. Serge Peillot, c'est une vidéo qui l'a confondu.
Oui, les faits remontent à la nuit du 19 au 20 août 2017, soit une semaine à peine donc avant l'enlèvement et le meurtre de Maëlys. Sur cette vidéo retrouvée dans le portable de Nordal Lelandais, on voit une fillette agressée sexuellement alors qu'elle dort. C'est la petite cousine de Lelandais. Et pour les juges, les enquêteurs, il n'y a aucun doute possible. La main et le bras de l'agresseur que l'on distingue sur la vidéo permettent d'identifier formellement l'ancien militaire. Maître Caroline Raymond, l'avocate des parents de la petite victime.
les faits d'agression sexuelle, ça c'est nouveau dans l'affaire Lelandais. On peut se demander quel est le mobile, hein, évidemment, de l'enlèvement et de la séquestration et du meurtre de Maëlys. On peut se demander pourquoi tout d'un coup, une semaine avant l'enlèvement et le meurtre de Maëlys, Nordal Lelandais filme cette petite fille endormie avec des faits de nature sexuelle.
Hier, Nordal Lelandais a fait valoir son droit au silence, une nouvelle stratégie de défense décidée avec son avocat, maître Alain Jakubowicz, pour protester contre les multiples violations du secret de l'instruction par la presse.
Serge Puyot, dans l'affaire Alexia Daval, 6 mois après les aveux de son mari Jonathan, les parents et la sœur de la victime sont actuellement entendus par le juge chargé de l'enquête à Besançon. Le mari avait affirmé de l'avoir tué au cours d'une dispute.
Merci de votre fidélité à RTL Midi pour tout savoir de l'actualité. Il est 12h40, nous prenons la direction de Nantes dans un instant, au lendemain d'une nuit de violence. A tout de suite.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, condamne avec la plus grande fermeté les violences urbaines de la nuit dernière à Nantes. 3 quartiers sensibles se sont embrasés après la mort d'un jeune homme de 22 ans lors d'un contrôle de police. Un homme qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis 1 an et était recherché notamment pour vol en bande organisée. 2 versions s'affrontent, celle des policiers qui évoquent une riposte proportionnée. Quand certains témoins affirment que les forces de l'ordre ont tiré alors que la victime était immobile, Nicolas Bobby, vous êtes sur place pour RTL.
Ce midi, c'est un véritable spectacle de désolation dans le quartier des Dehors-Vallières. La mairie annexe, le petit centre commercial ont été incendiés. Des voitures carbonisées, les poteaux des caméras de vidéosurveillance abattus. Cette résidente a eu très peur.
On les a vus, ils étaient cagoulés, tous habillés en noir, descendre, saccager tout ce qui pouvait leur tomber sous les mains. Ils voulaient vraiment des mordes avec la police. Parce que mon fils qui a 13 ans, lui, en a vu descendre avec des armes à feu. Le long des bâtiments, ils ont balancé des choses.
Vous avez eu très peur ?
Oui, parce qu'on a l'impression que c'est apocalypse, que tout va être détruit, qu'ils vont tout les faire exploser.
Le jeune mortellement blessé était surnommé le loup dans la cité du Breil. Ce grand frère le connaissait bien.
Le quartier en deuil, c'est un petit frère du quartier, c'est quelqu'un d'adorable, c'est une crème. Toujours le bonjour, respectueux envers les anciens. Il a fait une marche arrière légère, il n'y avait pas de policier derrière le véhicule et ils l'ont tiré dessus. Sans sommation.
Version contredite par la police, les CRS ont même dû attraper par la main 2 enfants qui se trouvaient derrière le véhicule.
Nicolas Bobby à Nantes pour RTL. Pour aller plus loin et essayer de comprendre, nous sommes avec Nicole Klein, la préfète de Loire-Atlantique. Bonjour à vous.
Bonjour.
D'abord, bonjour. Quel est le bilan de cette nuit de violence dans ces quartiers, Nicole Klein ?
Le bilan, c'est un jeune homme mort, hein, c'est évidemment déplorable, mais une trentaine de véhicules ont été incendiés, plusieurs bâtiments publics ont été également brûlés, hein, donc, dont la mairie annexe d'Hervalières, 2 centres commerciaux, l'un au Breil et l'autre au Dervalières. Vous avez décrit un spectacle de désolation, c'est en effet ce qui se trouve dans ces 3 quartiers, Breil, Malakoff et Dervalières.
Vous venez d'entendre le témoignage de cette mère dans le quartier de Dervalières justement, qui dit avoir vu descendre cette nuit des hommes armés dans sa cité. C'est fréquent ?
On est en effet inquiet depuis un moment, hein, sur la présence d'armes, en particulier au Breil où il y a eu des tirs qui ont été constatés ces dernières semaines. Donc oui, je l'ai écouté avec intérêt et ce qu'elle a vu correspond probablement à ce qui s'est passé.
Nicole Klein, Nantes est devenue une ville dangereuse ?
Non, Nantes n'est d'ailleurs moi je connais bien cette ville, hein, où je travaille depuis un moment, c'est très rare. Je n'ai pas connu d'émeute à Nantes, contrairement à certaines villes. Mais il y a des quartiers qui sont en effet pour lesquels on a des inquiétudes à cause des présences de stupéfiants et de la présence d'explosifs, de la présence d'armes.
Notamment le quartier du Breil, madame, qui faisait l'objet d'un dispositif de sécurisation renforcé.
Absolument.
À la suite d'incidents survenus la semaine dernière. Donc il se passe
Il y a eu des tirs qui nous ont inquiétés sur ce quartier. Donc les CRS effectuaient un contrôle routier. Et bon, les conditions exactes de ce qui s'est passé, c'est aux mains maintenant. Hein, le procureur a confié à l'IGPN, l'inspection de la police nationale, le soin de dire exactement ce qui s'est passé. Mais oui, il y avait une inquiétude sur ce quartier.
Est-ce que vous ressentez de l'inquiétude chez les habitants de Nantes aujourd'hui, quant à savoir, est-ce qu'ils peuvent sortir tranquillement le soir ?
Oui, à Nantes, on sort en effet tranquillement le soir. Hein, mais sur ces quartiers, la majorité des gens y vivent pacifiquement, mais il y a des raisons d'être inquiet et on avait déjà quelques raisons d'être inquiet qui sont renforcées depuis hier soir.
Le calme est revenu vers 3h du matin tout à l'heure.
3h du matin, absolument.
Est-ce qu'il y a un dispositif particulier pour les prochaines heures et pour la nuit prochaine ?
Un dispositif 24 heures sur 24 pour que les habitants puissent se sentir en sécurité.
Jusqu'à quand ?
jusqu'à ce qu'on le juge indispensable. Pour l'instant, c'est indispensable.
Il y avait déjà eu des scènes de violence l'été dernier. Est-ce que vous redoutez encore une fois un été chaud dans certains quartiers de Nantes ?
Non, j'étais là, j'étais en poste l'été dernier. Il n'y avait pas eu de scènes de ce type l'été dernier. Hein, encore une fois, c'est des quartiers où on est ensuite près l'ordre public, mais il n'y avait pas eu de scène de ce type l'été dernier, pas avec cette violence, non.
Il y a combien de policiers mobilisés en renfort en ce moment ?
Beaucoup. On ne donne jamais de chiffres précis, mais toutes les forces sont mobilisées pour être présentes 24 heures sur 24. Merci. Gendarmes et police.
Merci Nicole Klein d'avoir été l'invitée de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes la préfète de Loire-Atlantique. Donc après cette nuit de violence dans certains quartiers de la ville de Nantes, on va vous écouter et dialoguer sur l'évolution de la situation, sur l'insécurité dans ces quartiers, sur cette ville de Nantes que vous connaissez peut-être, où vous habitez sûrement, vous venez témoigner aussi d'une situation qui s'est peut-être dégradée ces dernières semaines ou derniers mois. N'hésitez pas, parlons-en tous ensemble. Le standard est ouvert et c'est au 3210 que ça se passe.
Grosse inquiétude en Angleterre après l'hospitalisation de deux personnes exposées à une substance inconnue. Elles ont été retrouvées inconscientes à Amesbury, une ville voisine de celle où l'ex-espion russe Sergei Skripal a été victime d'une tentative d'empoisonnement au mois de mars. Ces deux patients, un homme et une femme d'une quarantaine d'années, sont dans un état critique. La présence policière a été renforcée. Paris veut garder les doigts dans la prise. Deux semaines après l'annonce de la disparition du service Autolib, la capitale a présenté ce matin un nouveau système d'autopartage de voitures électriques. La mairie de Paris vient de conclure un accord avec Renault. Alors à quoi va ressembler ce nouveau service, Éric Vanier ?
Alors il s'agit bien d'un service d'autopartage, c'est-à-dire de véhicules électriques proposés en libre service. La flotte devrait atteindre 2000 unités dès l'an prochain. Elle sera composée essentiellement de la Zoé, mais pas seulement. Il y aura aussi des Twizy, des Kangoo et des Master électriques. Pas encore de grille tarifaire, mais on sait déjà qu'il ne sera pas nécessaire de s'abonner. Ce sera au coup par coup. En fait, la grande différence avec le système précédent, c'est qu'il n'y aura plus de stations avec des places réservées et des bornes de recharge. Vous serez guidé avec une application pour repérer dans la rue ces véhicules à emprunter, guidé pour trouver une place de parking ou les laisser. Et ce sont des équipes ambulantes qui viendront récupérer ces voitures pour les entretenir et les recharger. Comme l'explique Thierry Bolloré, le directeur général adjoint de Renault, j'ai bien dit Thierry Bolloré et pas Vincent.
On a des équipes qui vont les chercher, qui les ramènent directement, il n'y a pas besoin de camion, on fait ça de façon individuelle. On a des équipes très nombreuses de personnes qui s'occupent de ça et qui travaillent toute la nuit pour que le service soit parfait le lendemain matin. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on s'occupe de les parfaitement les nettoyer, de si d'aventure il y a eu des petits accidents, de les réparer, pour que les véhicules soient en parfait état le lendemain matin, on en profite aussi pour les recharger. En fait, on les recharge la nuit.
Alors Renault ne sera pas le seul opérateur. PSA a d'ores et déjà annoncé qu'il allait y aller aussi. Et d'autres opérateurs ont des projets comme ADA ou encore Avis avec Zipcar.
Merci Eric Vanier. Le tabac, c'est has-been. Une phrase lancée ce matin par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Fumer, ce n'est plus dans l'air du temps, explique-t-elle. Et elle ne prévoit pas d'imposer au niveau national l'interdiction de fumer dans les parcs et jardins, comme ça se fait désormais à Strasbourg. Dites-nous au 3210 si vous aussi, ou pas d'ailleurs, vous trouvez que le tabac, c'est vraiment has-been.
C'est un peu la phrase du jour, ça peut vous faire réagir. 3-2-1-0, vous revenez bien sûr au standard et on parle de tout cela tous ensemble. Le plan du gouvernement pour lutter contre le décrochage scolaire. On vous dit tout juste après ceci, les 12h50.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
C'est un plan très attendu qui devrait être présenté prochainement par le gouvernement. Un plan anti-pauvreté afin de contrer l'étiquette de président des riches. Parmi les mesures, la simplification des aides sociales versées en même temps pour tout le monde et automatiquement. L'augmentation du nombre de places en crèche. Mais dans RTL Midi, nous avons décidé de revenir sur une autre mesure qui nous intéresse tout particulièrement. La lutte contre le décrochage scolaire avec Anaïs Bouissou, un parcours obligatoire de formation jusqu'à 18 ans.
Oui, le constat est simple. Aujourd'hui, un jeune sur 10 sort de l'école sans diplôme et sans solution. À 16 ans, vous pouvez très bien vous retrouver lâché dans la nature sans travail. Et alors, plus vous décrochez tôt, et plus c'est compliqué de vous réinsérer après. Le but, si les études ne sont pas faites pour vous et que vous ne trouvez pas de travail, c'est donc de vous former d'une autre manière, par l'apprentissage, par des chantiers d'insertion, via un service civique, des formations Pôle emploi, du coaching pour vous apprendre à vous présenter correctement à un entretien d'embauche par exemple, tout ce qui peut permettre à un jeune encore mineur de s'en sortir par la suite. Cette obligation de formation jusqu'à 18 ans, elle sera portée en grande partie par les missions locales chargées de repérer les jeunes en difficulté. Sur le principe, c'est une mesure qui séduit plutôt les associations, à condition jusqu'à 18 ans et un jour, on ne laisse pas à nouveau les jeunes sans solution.
Eh bien, qu'en pensent les jeunes, justement? La présidente de l'UNEF, la principale syndicat étudiant, Lila Lebas, est dubitative.
Sur le principe, évidemment que ça paraît intéressant de faire en sorte que des jeunes, après 16 ans, puissent avoir accès à des formations pour pouvoir obtenir des qualifications et s'insérer sur le marché du travail. Par contre, ça pose évidemment beaucoup de questions. Comment on évite justement que ces jeunes, ils décrochent du système scolaire? Et ça, à mon avis, c'est un véritable sujet qu'il faut travailler. Et aussi, une autre interrogation, c'est quelles sont ces formations? On fait des formations de qualité qui donnent des qualifications. Il faut que ce soit le jeune qui ait le choix et non pas qu'on lui impose pour répondre à des besoins du marché de l'emploi aussi.
Alors et vous, dites-nous ce que vous pensez de ces formations entre 16 et 18 ans. Vous êtes à la fois parent, enseignant, chef d'entreprise. On va en débattre tous ensemble. Vos avis, ça nous intéresse. Est-ce que ça serait une bonne chose? Surtout pour éviter qu'on lâche les jeunes dans la nature. 32-10, vos prises de parole dès maintenant, 3-2-1-0.
Décès de l'écrivain et poète Georges-Emmanuel Clancier à l'âge de 104 ans. On vient de l'apprendre. Il avait notamment écrit Le Pain Noir qui avait été porté à l'écran à la fin des années 70 sur le petit écran, plus particulièrement par Serge Moati.
RTL Mondial 2018.
Nous sommes à J-2 de France-Uruguay. Christelle a les yeux rivés sur le mollet blessé de Cavani, éventuel forfait qui changerait bien sûr la donne du buteur sud-américain. Ce matin, c'est Adil Rami qui s'est présenté en conférence de presse du côté des Bleus. C'est le seul tricolore à ne pas avoir foulé les gazons russes depuis les débuts de cette Coupe du Monde. Mais il sait prendre la lumière. Nicolas Georgerot, le défenseur, s'est reconverti en ambianceur.
Oui, et tout de suite, il a donné le ton au moment de monter sur l'estrade.
Vous ouvrez passez... votre cahier, page 8, exercice 4, pas de bruit.
27 minutes devant les micros, Adil Rami. 0 minute sur le terrain dans cette Coupe du Monde, le seul joueur de champ dans cette situation. Les répliques ont fusé.
On m'a fait passer en premier parce qu'après c'est Blaise. Et Blaise, c'est pas aussi marrant que moi. ça va, je rigole.
Tout y passe, l'intox des Uruguayens sur la blessure de Cavani, jouera pas.
S'il joue contre nous, il aura bien démonté la séance, lui. Il faut arrêter de nous faire croire qu'il va être disponible contre nous.
C'est lui qui a donné le surnom de Jeff Tuch à Benjamin Pavard.
Il disait d'arrêter de l'appeler Jeff Tuch, mais pas pour moi, pour vous. Vous êtes pas son pote.
Adil Rami, grand frère, qui promène sa bonne humeur, qui fait le lien aussi entre toutes les générations.
Mon rôle à moi, c'est d'essayer d'apporter des ondes positives à cette équipe, de pas montrer de frustration, même si parfois c'est vrai que je me dis j'aimerais jouer. Si je peux apporter cette petite touche-là, j'hésite pas à le faire.
Impossible à arrêter quand il est lancé.
Encore une question, parce que celle-là elle était moyenne. Mais...
On va rester là-dessus, on reste là.
Bon, allez, merci, allez, au revoir.
Pas tout à fait la fin, Adil Rami s'est même caché dans l'auditorium pour faire le pitre durant l'intervention de Blaise Matuidi.
Trop content de prendre la lumière, Adil Rami. Nicolas Georgerot, l'un des envoyés spéciaux d'RTL en Russie. Enfin, un énorme scandale en Espagne. Vous vous souvenez de la greffe de foie dont avait bénéficié Eric Abidal il y a 6 ans. Le FC Barcelone avait affirmé que le donneur était l'un de ses cousins. Mais d'après des écoutes téléphoniques de l'ancien président du club, les policiers pensent que le Barça aurait acheté un foie, ce qui est évidemment tout à fait illégal. On y reviendra dans le journal de 13h.